Et donc au téléphone sonne ce soir, quel bilan carbone de notre usage du numérique? Car là aussi nous polluons, il y a non seulement la fabrication des matériaux pas toujours recyclables, il y a aussi nos usages et cette manie que nous avons de télécharger, de stocker, d'acheter et de racheter. Et à ce rythme-là, certains prédisent qu'en 2025, la pollution liée au numérique sera plus polluante, donc plus effective, que celle des voitures. Alors vrai ou faux? On va poser la question ce soir à nos invités. Vous nous appelez 01 45 24 7000 ou bien sur l'appli France Inter à l'onglet Réagir.
Éric Delvaux. Le téléphone sonne.
Avec un premier mail d'Arthur. Arthur qui pose cette question. Sait-on quelle quantité de CO2 et d'énergie sont engloutis par nos usages quotidiens d'Internet, Facebook, Netflix et autres iCloud? On est en plein dans le sujet. Et pour répondre à nos questions ce soir, deux invités. Raphaël Guastavi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous représentez l'ADEME, hein, l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie. Et en duplex de Lyon, Laurent Lefebvre. Bonsoir Laurent Lefebvre.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur à l'INRIA, à l'Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique. Vous êtes aussi membre du groupe de service Eco-Info. Alors la question d'Arthur, je vais vous la poser pour commencer, Raphaël Guastavi. A-t-on évalué l'empreinte carbone de nos usages du numérique avec son volet fabrication et son volet recyclage et usage?
Alors effectivement, même si c'est difficile de l'évaluer très précisément, on est aujourd'hui à quelque chose qui tourne autour de 4% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial liées aux services numériques de façon très large. Donc 4% des gaz à effet de serre émis au niveau mondial, c'est plus que le transport aérien par exemple.
Oui, tout de même. Vous avez les mêmes chiffres. Je vous pose la question, Laurent Lefebvre, chercheur à l'Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique. L'utilisation, l'usage, la fabrication du numérique pollue plus que l'aviation civile?
Voilà, oui, on considère que c'est 4% des gaz à effet de serre qui sont générés par le numérique. Il y a aussi la consommation énergétique qui est très importante. On considère que plus de 10% de l'électricité mondiale est utilisée par le numérique, avec une croissance de 9% par an, donc c'est assez considérable.
Alors parmi les sources de pollution numérique la plus médiatisée, c'est probablement le stockage des données, comme ces mails que l'on ne supprime pas toujours. Pourquoi est-ce que ça entraîne une grande consommation d'énergie, Raphaël Guastavi?
Alors effectivement, un des problèmes, c'est le mail avec ces pièces jointes qui peuvent être volumineuses, qui vont être stockées d'abord chez vous, puis qui vont passer et transiter par les data centers de votre fournisseur d'accès Internet. Ça va transiter sur le réseau mondial pour se retrouver sur un autre data center, celui de votre correspondant. Et donc, cette pièce jointe, en fait, elle va être stockée à plusieurs endroits, plusieurs fois, et elle va pas être effacée des data centers. Donc, pour conserver cette pièce jointe et ce mail, il va falloir faire tourner des machines, donc le fameux cloud, qui sont des grands serveurs, des grandes baies informatiques, qui demandent de l'énergie pour fonctionner, pour être refroidi, sans compter toutes les ressources naturelles dont il aura fallu extraire pour les construire, les fabriquer.
01 45 24 7000 avec un premier appel de Marie. Bonsoir Marie.
Bonsoir, j'appelle de la Lozère, des gorges du Tarn, exactement.
Ça fait envie.
C'est souvent zone blanche, hein. Bon, mais ça c'est pas grave.
C'est un autre sujet.
C'est pas un problème, non mais on est en vacances et on n'a pas besoin d'être téléphoné tous les trois secondes. Bon. Oui, alors tout ce que le monsieur a dit là, c'était l'objet de mon appel, donc il l'a dit, j'avais lu un article dans le Canard qui donne toutes les données que le monsieur a dit, je vais pas répéter. Mais par contre, ce que j'ai, alors, si vous voulez, pour compléter un peu ce qui a été dit là, je trouve que on accuse beaucoup de gens d'utiliser Internet, enfin qu'on utilise beaucoup tout le numérique aujourd'hui dans tous les domaines. Alors qu'on l'utilise à l'hôpital, c'est absolument indispensable. Qu'on l'utilise chez les pompiers, c'est tout à fait indispensable. Vous voyez, il y a des choses qui sont le numérique apporte énormément à la société. Seulement, le problème, c'est que maintenant, on demande aux particuliers que nous sommes, que je suis, d'utiliser Internet constamment pour régler des problèmes avec la Sécu, pour régler des problèmes avec les impôts, vous voyez ce que je veux dire. On nous pousse à consommer, alors que moi je suis pas celle qui consomme le plus, hein, vous voyez ce que je veux dire.
Ah bah très
alors,
bien.
On, on, on accuse les gens on dit on consomme de l'énergie, mais on pousse les gens à consommer. Vous voyez ce que je veux dire ?
Je vois très bien ce que vous voulez dire. On va rendre cette remarque à Laurent Lefebvre et Raphaël Guastavino, nos invités. Laurent Lefebvre, chercheur à l'INRIA, sommes-nous condamnés à posséder et à utiliser toujours plus d'objets connectés et toujours plus longtemps ?
Oui, on a l'impression qu'on est vraiment condamné, qu'on est dans une sorte de syndrome de Stockholm numérique et qu'on n'a pas le choix. On est obligé d'utiliser du numérique, même s'il y a plein d'effets néfastes autour de ce numérique, notamment par la production, par la consommation d'énergie. Mais il y a quand même encore, même si on est dans ce numérique un peu imposé, il y a quand même encore beaucoup de gaspillage dans le numérique que l'on pourrait éviter. Parce qu'on est vraiment là dans l'ère du surdimensionnement. Tout le monde surdimensionne. Les concepteurs de smartphones vont surdimensionner votre smartphone si jamais vous avez besoin de faire un jeu 3D. Les opérateurs réseau vont sûrement surdimensionner les tuyaux. Les hébergeurs de data centers vont surdimensionner le nombre de machines. Donc tout le monde surdimensionne pour avoir une bonne qualité d'usage, une très bonne qualité, et surtout pour anticiper éventuellement des pics de trafic ou des pics d'usage. Mais on se retrouve vraiment là avec un gaspillage énorme. En 2015, on considérait par exemple que 30% des serveurs dans le cloud aux États-Unis étaient allumé pour rien.
Alors le cloud, je fais une parenthèse, le cloud, oui. Il faut bien comprendre pour les auditeurs qui ne sont pas forcément abonnés, c'est ce nuage où sont stockés, c'est des data centers, c'est-à-dire ce sont des grosses armoires distribuées un peu partout à travers le monde dans lesquelles sont stockées nos données nuit et jour, hein, c'est bien ça.
Exactement, nos données et les services que l'on utilise, que ce soit des réseaux sociaux, des moteurs de recherche et tout type de stockage en ligne. Donc voilà, de cloud qui est de plus en plus gros, de plus en plus présent, basé sur des gros data centers, mais aussi maintenant de plus en plus de petits data centers que l'on va retrouver plus proche des utilisateurs dans nos villes. C'est ce qu'on appelle le phénomène de edge computing, donc de cloud en bordure.
Alors je vous demandais de ne pas être trop technique pour nos oui. auditeurs, mais
Des petits data centers en bordure proches de nous, ouais. Parce qu'il va y avoir le déploiement de nouveaux services tels que la 5G, tels que des réseaux pour les capteurs, pour les objets connectés. Donc il faut de plus en plus de serveurs et donc de plus en plus de réseaux aussi.
Raphaël Guastavi, vous avez vous aussi noté, repéré à l'ADEME, l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie, ce gaspillage qui existe dans les données numériques stockées dans ces grandes armoires que sont les data centers, serveurs.
Tout à fait. Alors c'est vrai que je comprends tout à fait la problématique soulevée par l'auditrice. On a de plus en plus de services qui sont mis en avant pour consommer beaucoup de données. Tout ce qui est visionnage, par exemple, de vidéos en streaming, qui augmente sans cesse avec de plus en plus de nouveaux services, sans réel effort d'éco-conception de ce service, et du coup qui emballe la machine. Et l'idée, c'est de pouvoir justement conserver les ressources et l'énergie pour les projets et pour les usages les plus importants.
Les solutions, les réponses, on va les aborder dans un deuxième temps dans l'émission. On va d'abord dresser le tableau dans un premier temps. D'abord, en quoi le chargement d'une vidéo, ce qu'on appelle le streaming, en quoi est-ce que ça entraîne une source de pollution conséquente ?
Tout simplement de devoir, avec le streaming, avoir la nécessité d'avoir des serveurs suffisamment disponibles et suffisamment puissants pour pousser la vidéo en ligne au moment où l'utilisateur souhaite le regarder, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Et comme le disait
Laurent Lefebvre,
c'est la question du surdimensionnement. On est obligé de surdimensionner pour offrir une qualité de service, alors que finalement c'est quelque chose qui va contre un usage naturel quelque part.
Laurent Lefebvre, chercheur à l'INRIA, ces data centers surdimensionnés, ces grandes armoires surdimensionnées, ça provoque pas mal de chaleur. Qu'est-ce qu'on en fait de cette chaleur d'ailleurs ?
Alors idéalement, on arrive à la recycler. On va pouvoir recycler la chaleur sous forme d'eau chaude qui va être redistribuée éventuellement dans les quartiers autour, ou on peut éventuellement recycler la chaleur en direct dans des bureaux.
Donc ça veut dire que les data centers seraient beaucoup plus écologiques que ce que l'on croit ?
Oh non, ils sont pas très écologiques. Ils sont de gros consommateurs d'énergie et de ressources avec un gros taux de remplacement des machines, puisque les hébergeurs changent souvent leurs serveurs. Et pour parler du streaming et de la vidéo, comme on vient de l'évoquer, il faut quand même savoir que 80% du trafic sur Internet, c'est de la vidéo. Donc la plupart du trafic qui circule sur Internet, c'est de la vidéo qui consomme énormément de ressources, qui met beaucoup de pression sur les infrastructures numériques Donc on considère par exemple que la vidéo à l'échelle de l'Internet, c'est l'équivalent en carbone à la génération du carbone d'un pays comme l'Espagne. 300 millions de tonnes d'équivalent CO2 l'année dernière. Donc c'est considérable.
Donc vous êtes en train de nous dire que finalement les YouTube, les sites de VOD comme Netflix, les sites pornographiques sont parmi les plus grosses sources de pollution d'usage numérique, c'est bien ça ?
Oui, en termes d'usage, c'est ce qui génère le plus de données, le plus de trafic. On considère qu'un site comme Netflix est en termes de CO2 l'équivalent d'un pays comme le Chili. Donc c'est vraiment important. Surtout, comme disait notre collègue de l'ADEME, ça met une pression sur les infrastructures parce qu'il va y avoir un besoin d'accéder à des vidéos tout temps, à toute heure, à tout moment, avec une qualité de mieux en mieux. Actuellement, on regarde des vidéos peut-être en HD, mais on parle de la vidéo en 4K, en 8K. Donc chaque fois avec un facteur multiplicatif en termes de données et un impact très fort sur les ressources informatiques.
Raphaël Guastavi de l'ADEME, l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie, vous vouliez apporter un commentaire.
Pour compléter effectivement ce qui vient d'être dit, on a aussi une limite physique à l'efficacité énergétique de ces serveurs. Donc à un moment donné, de toute façon, on ne pourra pas avoir des serveurs plus efficaces, même si on récupère la chaleur pour chauffer des logements ou des hôpitaux, par exemple. Donc on arrive à cette limite physique et à partir de là, toute multiplication de nouveaux data centers pour répondre à ces besoins de vidéos de petits chats vont de toute façon avoir un impact qui vient venir s'ajouter.
01 45 24 7000, on s'intéresse jusqu'à 20h au bilan carbone de notre usage du numérique. Vous nous appelez au 01 45 24 7000 avec une question de Marie-Catherine. Bonsoir Marie-Catherine.
Bonsoir, merci. Voilà, nous nous disputions il y a quelques jours avec ma petite fille Alice, qui maintient en permanence ouverte ses données mobiles sur son smartphone, même si elle ne sollicite pas Internet. Je lui disais donc que cette pratique de maintien d'ouverture des données mobiles consomme du data inutile et en plus réduit les possibilités de débit, enfin je ne sais pas si c'est exactement le mot, les possibilités de débit des personnes environnantes, etc., etc. Et me rétorque Alice, non, Manou, il est préférable que je maintienne mes données mobiles ouvertes parce que c'est précisément l'ouverture, la fermeture de mes données mobiles selon que j'ai ou pas besoin de solliciter Internet qui consomme du data. Donc je ne sais pas, je n'ai pas la réponse.
Eh bien on va poser la question au chercheur de l'INRIA, Laurent Lefebvre de l'Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique qui est en duplex de Lyon. Est-ce que vous pouvez, Laurent Lefebvre, répondre à Manou et Alice, est-ce qu'il vaut mieux laisser ces applis, ces données ouvertes ou les ouvrir et les fermer tout le temps?
Alors là ça va être une réponse peut-être un peu trop technique, mais en fait si vous laissez vos données mobiles ouvertes en permanence, vous allez provoquer des échanges entre vos applications et les serveurs présents dans le cloud, les serveurs présents chez vos hébergeurs. Donc de toute façon, vous allez générer un trafic. Ce trafic va consommer de l'énergie et notamment de l'énergie sur votre smartphone, ce qui fait que ça va réduire aussi la durée de vie de la batterie. Et donc vous allez recharger votre batterie plus souvent. Donc ça a un impact aussi sur la durée de vie du smartphone puisque le nombre de recharges de la batterie est assez limité finalement dans le temps. Donc il y a cet impact-là sur la ressource elle-même, sur le matériel. Il y a aussi cet impact sur l'utilisation des données. Le fait de laisser les données mobiles ouvertes en permanence, les applications vont se mettre à jour en permanence, peut-être pas au moment où vous le voudriez. Voilà, il va y avoir des échanges, peut-être des échanges de fonds qui sont opérés entre les applications. Donc ça va sans doute consommer plus d'énergie que si vous restez en mode données mobiles non activées ou éventuellement même en mode avion.
Alors Coralie, par mail, nous demande également si la télévision, le visionnage de la télévision qui passe désormais souvent par une box, hein, une box numérique, est-ce que c'est plus gourmand en énergie qu'une antenne hertzienne, Raphaël Guastavi de l'ADEME?
Alors, oui, c'est plus consommateur, parce que finalement, un téléviseur aujourd'hui, c'est jamais qu'un smartphone plus grand. C'est-à-dire qu'on a des télé connectées, soit nativement, soit avec la box, qui nécessitent les mêmes matériaux, les mêmes métaux, les mêmes consommations d'énergie, parce que ces télés vont se connecter au même serveur, au même service. Sauf qu'en plus, effectivement, au niveau de la fabrication, on a plus d'impact parce que l'appareil est plus grand.
01 45 24 7000, Jean-Luc nous appelle. Bonsoir Jean-Luc.
Oui, bonsoir.
Vous êtes en ligne d'Eure-et-Loir.
Oui, j'ai une question assez simple à vous poser. J'aimerais savoir quelle est la consommation d'énergie qui est faite par tous les relais de smartphones, de téléphones mobiles, parce que il y en a un peu partout dans le monde. Et de plus en plus, les gens consultent ces bases de données via leur smartphone. Donc, à combien on estime aussi la consommation d'énergie de ces antennes relais? Merci.
Merci d'avoir posé la question. Laurent Lefebvre, chercheur à l'INRIA à Lyon, est-ce qu'on connaît le bilan carbone de toutes ces antennes, petites antennes relais pour les smartphones dans les campagnes et les villes?
Alors, j'ai pas ce détail aussi précis, mais il y a trois grandes familles de consommateurs d'énergie dans l'informatique. Il y a les réseaux, il y a les data centers et il y a les équipements terminaux. Et ce qu'on considère, c'est que ces trois familles consomment à peu près la même quantité d'énergie, à la fois en phase de production, mais aussi en phase d'usage. Donc voilà, les réseaux sont à peu près équivalents en termes de consommation électrique aux équipements terminaux et aux data centers.
Il est 19h35 sur France Inter.
France Inter, le téléphone sonne. Vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag Telson.
Alors pas mal de questions ce soir sur l'usage des outils numériques et pas mal de questions aussi sur leur fabrication. C'est l'autre source de pollution numérique, la fabrication des matériels informatiques avec leur obsolescence rapide, hein, des téléphones ou des ordis régulièrement incompatibles avec les dernières applis ou les derniers logiciels. Et la question de notre auditeur, est-ce que les fabricants le font exprès de nous faire acheter et racheter peu de temps après, Raphaël Guastavi de l'ADEME?
Déjà, de base, je pense que les fabricants souhaitent qu'on achète leur matériel.
Ça, donc c'est... l'obsolescence programmée, on sait que ça existe, mais particulièrement sur les smartphones.
L'obsolescence programmée, en réalité, elle est difficile à établir réellement. On parle plutôt d'obsolescence culturelle sur ce type d'équipement.
Quelle différence vous faites ?
La différence, c'est que on va vous faire miroiter que le nouveau téléphone qui vient de sortir et qui remplace celui qui a 6 mois ou 1 an est tellement mieux que vraiment il faut que vous l'achetiez. Alors qu'en réalité, en termes d'usage, ça va être à peu près la même chose que celui que vous aviez et qui fonctionne encore. Donc c'est vrai que toute la difficulté, c'est de faire comprendre que l'impact environnemental, il est bien global, il est bien à la fabrication et à l'usage, et que plus on fait durer ces produits, plus on lisse quelque part cet impact environnemental et donc plus on le réduit au niveau de l'appareil.
Alors il y a la part des déchets de matériel informatique non recyclables. Hein. Laurent Lefebvre, chercheur à l'INRIA, si on prend l'exemple d'un smartphone, cette part non recyclable, est-ce qu'elle est conséquente sur un téléphone mobile?
Elle est conséquente. On considère qu'il y a à peu près 60 matériaux à l'intérieur d'un smartphone, dont une cinquantaine de métaux et de terres rares. Et dans le meilleur des cas, sur ces 50 métaux et terres rares, on arrive à en recycler une petite vingtaine. Tout le reste est là, en termes de présence, de manière très infime. Il y a quelques grammes de matériaux, parce que c'est présent dans quelques composants, et ça, on va le perdre au moment du recyclage. Donc en France, on considère que l'année dernière, il y a eu 1,8 million de tonnes de déchets électriques et électroniques en France, c'est-à-dire plus de 3 tonnes à la minute, c'est énorme. Alors là-dedans, il n'y a pas que de l'informatique, il y a aussi les réfrigos, il y a aussi différents équipements, mais tout ce qui est électrique et électronique. Donc voilà, on va perdre énormément de matériaux en fin de cycle, et ces matériaux ne vont pas revenir dans ce cycle de vie du numérique.
Vous nous avez dit un tiers non recyclable hein, sur un appareil smartphone.
C'est beaucoup, oui. Et voilà, c'est pas recyclable, donc du coup, ça devient du mâche-fer, et puis ça devient du goudron dans nos routes.
Raphaël Guastavi de l'ADEME sur cet aspect des téléphones non recyclables.
Alors, déjà de façon générale, il faut avoir en tête qu'on a plus de 30 millions de smartphones, enfin de téléphones qui dorment dans nos tiroirs. Il y a aussi un problème quand je dis dorment, c'est des téléphones qui ne sont plus utilisés et qui peuvent être considérés comme déchets dans la plupart des cas. Donc la problématique, c'est déjà collecter smartphones, équipements électriques et électroniques. Aujourd'hui, on a un taux de collecte seulement de 50% à peu près. Donc il y a vraiment une marge de manœuvre importante. Et c'est vrai que ces métaux précieux, alors la partie métaux précieux, tout ce qui est or, platine, argent, il faut avoir en tête que c'est une réelle mine urbaine aujourd'hui. Dans une tonne de cartes électroniques, on a 50 fois plus de teneur en or que dans une tonne de minerais naturels.
C'est-à-dire, vous voulez nous dire quoi là en ce moment ?
Ce que je veux dire, c'est que il est important de participer aux collectes et donc de se débarrasser, entre guillemets, dans la bonne filière pour recycler plus. Les industriels ont des efforts à faire en matière de traitement pour recycler tout ce qui est effectivement carte électronique et composants pour pouvoir effectivement sortir le plus possible de ces métaux rares, de ces métaux stratégiques. Stratégique parce que c'est aussi des métaux qui se retrouvent souvent dans des coins du globe où on peut avoir des difficultés géostratégiques.
Alors vous venez d'évoquer le sujet, Raphaël Guastavi, face à cette pollution numérique, il y a une prise de conscience que doit avoir le grand public. Est-ce que cette prise de conscience, elle existe ou est-ce que ça reste encore une préoccupation de quelques initiés avertis seulement, Laurent Lefebvre ?
Cette prise de conscience, elle arrive fortement depuis, je dirais, 2 ou 3 ans. Votre émission en est la preuve. Et c'est bien de répondre à ces questions parce que c'est vraiment un sujet important, un sujet de société, de montrer que l'informatique, le numérique est un domaine industriel comme les autres, même s'il est entouré d'une phase un petit peu de assez cool, c'est joli, ça marche bien, il y a des vidéos de chat. Derrière, il y a vraiment des équipements, il y a des infrastructures et donc qui ont des impacts assez forts. Donc c'est vrai que, un des pans importants de la sobriété numérique, c'est un terme qui est un peu à la mode à ce moment, et c'est notamment de faire durer les équipements le plus longtemps possible. Là, on a évoqué le cas des smartphones, qui sont remplacés en moyenne tous les 2 ans par les Français. Donc, des smartphones qui partent à la poubelle ou qui partent dans les tiroirs alors qu'ils sont encore en fonctionnement, qui pourraient encore fonctionner. Donc voilà, essayer de faire durer les équipements le plus longtemps possible, même si l'équipement suivant est très à la mode, très joli, très, très flashy, il faut le garder, il faut le garder le plus longtemps possible.
Et j'apprends au passage qu'on change en France de téléphone mobile, de smartphone, en moyenne tous les 2 ans, hein, c'est bien ça. Ouais. Il y a donc la réponse des particuliers, il y a aussi la réponse que doivent avoir et que doivent apporter les entreprises, celles qui font travailler leurs salariés sur ordinateur ou au téléphone, entreprises d'ailleurs de grande ou de petite taille. Est-ce qu'elles sont sensibilisées à cette pollution numérique, Raphaël Guastavi de l'ADEME ?
En tout cas, on fait en sorte qu'elle le soit. C'est vraiment l'approche éco-responsabilité qu'on va retrouver.
Comment faites-vous pour qu'elle le soit à l'ADEME ?
C'est à l'ADEME. On va diffuser avec l'aide de relais des approches autour de l'éco-responsabilité. C'est de sensibiliser les entreprises aux achats responsables, à l'allongement de la durée de vie de leur équipement, à la réparation de leur équipement. C'est de pouvoir aussi faire en sorte que les fabricants eux-mêmes intègrent de l'éco-conception dans leurs appareils, c'est-à-dire faire en sorte qu'ils soient plus réparables, qu'ils soient plus durables.
C'est un vœu pieux, mais comment on les incite ? Parce qu'on peut toujours sauter comme un cabri, comme disait le général de Gaulle, mais comment est-ce qu'on incite à aller dans cette direction-là ?
On peut les inciter tout simplement en leur rappelant que finalement le choix, il se fait par les usagers, par les consommateurs, et que... En dehors de toute forme de greenwashing, il s'agit de vraiment montrer des preuves de réalisation pour aller dans ce qu'on souhaite aujourd'hui les consommateurs, de plus en plus en tout cas, aller vers des usages plus verts et en tout cas plus respectueux de l'environnement. Donc c'est les mettre en face de leurs responsabilités par rapport à ces questions et donc travailler avec eux, comme c'est le cas par exemple avec l'indice de réparabilité qui devrait, d'après la feuille de route économie circulaire et la prochaine loi économie circulaire devrait naître en 2020. Et donc travailler avec eux. On retrouve dans les groupes de travail ces fournisseurs de matériel, les fabricants et les fournisseurs de services.
Vous parlez d'incitation, on peut aussi évoquer, pourquoi pas, des mesures à venir plus contraignantes, un peu comme sur le modèle des limitations de vitesse sur les routes. Est-ce qu'on pourrait, Laurent Lefebvre de l'INRIA, est-ce qu'on pourrait envisager d'octroyer à chaque utilisateur d'Internet un crédit d'octet, finalement, renouvelable chaque année? Est-ce que c'est envisageable, ça?
Oui, dans les modèles les plus extrêmes, on peut imaginer un rationnement de l'usage du numérique. Je voulais aussi compléter sur les aspects éco-conception matérielle qui viennent d'être évoqués ici. En plus du matériel, il faut aussi prendre en compte l'aspect logiciel, parce que le logiciel, les services, les applications que l'on fait tourner sur nos smartphones, sur nos ordinateurs, c'est aussi un vrai facteur d'obsolescence et de remplacement. Combien de fois on entend des utilisateurs dire « je vais changer mon smartphone smartphone parce qu'il rame. Et souvent, il rame parce que vous avez mis à jour votre smartphone, vous avez mis un nouveau système d'exploitation, vous avez mis à jour vos applications, et ces applications sont de plus en plus gourmandes. Elles consomment de plus en plus de ressources en termes de mémoire, en termes de processeur, en termes de batterie. Et du coup, vous vous retrouvez coincé. Votre smartphone, il fonctionne encore, mais il fonctionne tellement lentement que vous le jetez, finalement. Et donc, c'est ce qu'on appelle les obésiciels, des logiciels de plus en plus gros, qui emploient de plus en plus, qui fournissent de plus en plus de fonctions et de plus en plus de services. Et là-dessus, il faut travailler. Il faut donc faire de l'éco-conception logicielle, revoir la manière dont on programme, dont on conçoit les applications et les services pour réduire leur impact sur les ressources et réduire aussi leur consommation énergétique.
Raphaël Gostavi.
Alors, vous posiez la question sur comment l'ADEME, justement, participe à cette évolution. Donc là, typiquement, nous avons financé, dans le cadre d'un appel à projet de recherche, un ensemble de projets de recherche pour justement définir comment mieux mesurer les impacts environnementaux, mais aussi comment mieux concevoir et donc éco-concevoir les logiciels, que ce soit des applications, le fonctionnement du cloud ou même du streaming.
Le bilan carbone de nos usages numériques, on en parle ce soir dans un quart d'heure encore jusqu'à 20h avec 01 45 24 7000. Maria qui nous appelle de Nantes. Bonsoir Maria.
Oui, bonsoir.
Quelle est votre remarque ou votre question?
Merci de prendre ma question. Écoutez, par rapport à cette émission, je voulais savoir s'il est prévu dans les temps à venir des modules éducatifs ou à destination des enfants, des jeunes adultes dans les écoles, écoles primaires, collèges, lycées, voire filières universitaires, pour sensibiliser justement à la bonne utilisation des pratiques numériques et puis voilà, voire même peut-être intégrer une forme de module un jour dans un programme scolaire.
Alors on va poser la question au représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, Raphaël Gostavi. On a parlé de la sensibilisation des adultes, on a parlé de la sensibilisation des entreprises et les enfants. Est-ce que l'ADEME s'en préoccupe?
Alors, c'est la cible grand public, nous l'adressons à travers justement nos différentes publications. Hein. Vous pouvez vous procurer sur la médiathèque de l'ADEME la face cachée du numérique, donc petit livret qui rappelle tous ces éléments dont on vient de parler. Mais c'est vrai qu'il faudrait pouvoir, et ça c'est le rôle de l'éducation nationale, mettre cette sensibilisation, cette pédagogie autour du numérique à toutes les étapes de la vie, mais aussi avoir plus de formation des futurs ingénieurs en électronique en informatique sur ces questions d'éco-conception.
Laurent Lefebvre, chercheur à l'INRIA, est-ce que, comme nos enfants peuvent aujourd'hui nous reprocher de ne pas avoir fait assez attention à nos bouteilles en plastique, est-ce que d'autres générations à l'avenir pourront nous reprocher de ne pas avoir fait suffisamment attention à notre consommation numérique? Ça se passera de la même façon?
Eh bien, on essaye d'éviter ça, donc notamment avec le collectif Ecoinfo, un groupement de services du CNRS.
Dont vous êtes membre.
Dont je suis membre, voilà. Nous travaillons au niveau de l'enseignement supérieur et la recherche, donc dans les universités, à destination des chercheurs, à destination des ingénieurs, mais aussi des étudiants, pour mettre en place des formations, pour mettre en place des actions de sensibilisation à l'impact environnemental du numérique, à l'éco-responsabilité, aux techniques d'éco-conception. Donc là, c'est vraiment une démarche qui est lancée depuis plusieurs années. Et on voit une demande de la part des jeunes. Je dirais, il y a 5-6 ans, c'était moins le cas. Mais là, on voit vraiment une demande de la part des jeunes parce qu'ils sont sensibles. Ils voient bien que leur usage du numérique, leur usage des réseaux sociaux, ça a un impact. Ils entendent parler de réchauffement climatique, donc ils arrivent à lier les deux. Et donc, ça, c'est important. Et oui, on acte dans ce sens-là.
01 45 24 7000 avec un appel de Nicolas qui nous appelle de Lyon. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir.
On vous écoute pour votre question.
Alors, je voulais avoir l'avis des invités, car j'ai écouté là effectivement les recommandations de prendre conscience de ça, d'éduquer avec l'éducation nationale. Mais je vais m'appuyer sur deux auteurs que vous avez reçus à France Inter et qui ont écrit Le bug humain et puis La civilisation poisson rouge avec le marché de l'attention. Et donc, en m'appuyant sur ces deux auteurs, j'aimerais avoir leur avis si ça va suffire d'éduquer, s'il ne faudrait pas aussi contraindre les concepteurs de sites, les sites marchands qui veulent notre attention, hein. C'est un marché, l'attention.
Oui.
Et donc, du coup, ils veulent nous faire passer du temps là-dessus, ils veulent nous faire passer du temps à regarder des pubs, des vidéos, etc., etc. Donc, ce qui va générer forcément des datas. Eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on reste dessus. Donc, tout est fait. Il y a des études, même en euros, hein, là-dessus, pour nous faire rester le plus longtemps possible. Donc, éduquer, oui, mais si on s'attaque à nos instincts, on va avoir du mal, quoi.
Oui. Voilà. Bonne question, Chris. Nicolas de Lyon, qui rejoint le mail que vient de nous envoyer Chris sur le même thème. Pourquoi ne pas instaurer une sorte de police du web, police du net, police du numérique, pour pénaliser les émetteurs de spam et autres courriels promotionnels, pour lutter donc contre la pollution carbone. Raphaël Guastavi, c'est envisageable, une police du numérique dans ce registre?
Ça me semble compliqué à être mis en œuvre. Est-ce que ce serait bien accepté d'ailleurs par la population d'avoir un contrôle aussi strict sur nos usages? Je pense que tout le monde est responsable, ça c'est clair. Et l'idée, c'est de pouvoir engager tout cet écosystème, à la fois les fabricants de matériel, les fournisseurs de logiciels, les fournisseurs de services numériques de façon générale, et d'avoir donc dans un esprit de sobriété, un comportement et des usages qui soient adaptés à ce qu'on peut réellement émettre. Alors après, on peut faire des propositions hein, du type pourquoi pas noter dans les App Store ou Google Store, Play Store, pourquoi pas noter l'impact environnemental des applications.
Que ce soit affiché.
C'est quelque chose qui aujourd'hui peut être rendu possible. Donc là,
Une sorte de traçabilité.
Tout à fait. L'idée, c'est de faire au moins connaître quels sont les réels impacts de ce que nous consommons.
Avant de retourner au standard, une question sur l'avenir de la pollution numérique. Il y a les optimistes qui pensent que le numérique va justement inventer ses propres contre-feux. Et puis il y a les pessimistes hein, qui pensent au contraire que le flux numérique croissant va donc accélérer cette pollution. Deux invités ce soir, de quel côté vous situez-vous chacun? On commence par Laurent Lefebvre, chercheur à l'INRIA, sur l'avenir de la pollution numérique. Optimiste ou pessimiste?
Là, pour l'instant, un peu pessimiste. On est vraiment dans un accroissement assez important. Donc, comme je disais tout à l'heure, 9% de consommation électrique en plus chaque année. On est vraiment dans une pente très très forte. Ça veut dire un doublement de la consommation tous les 8 ans. Donc, c'est assez impressionnant. Mais de là à instaurer une police, ça me semble aussi un petit peu difficile. On est pour l'instant dans l'ère de la recommandation. Il y a des recommandations européennes pour construire des data centers plus éco-responsables. Il y a des recommandations aussi pour avoir des équipements terminaux de meilleure qualité. Il y a quelques acteurs qui s'engagent sur ce marché. Je vais notamment citer un acteur hollandais qui s'appelle Fairphone, qui construit des équipements téléphoniques mobiles éco-responsables avec une traçabilité de l'extraction jusqu'à l'usage.
Et je vous coupe sur ce Fairphone, on a une question justement de Pierre de Malakoff qui nous dit qu'il a entendu parler de ce téléphone durable, un Fairphone. Est-ce qu'il est fiable et vraiment durable, demande Pierre de Malakoff.
Voilà, c'est un équipement dont la traçabilité des métaux a été garantie pour la plupart des métaux. La conception se passe en Chine, mais avec une garantie de travail de qualité pour les ouvriers. Et surtout, c'est un équipement dont le logiciel et dont le matériel va pouvoir durer très longtemps. Vous allez pouvoir le réparer vous-même très facilement.
Et il est fiable.
Une sorte de gros Lego. Et il est fiable.
Bon,
alors, Fairphone, c'est une petite goutte d'eau dans l'océan du smartphone. Ils en ont vendu 70 000 sur les deux dernières générations, alors que l'année dernière, c'est vendu 1,5 milliard de smartphones. Mais c'est une goutte d'eau qu'il faut favoriser. C'est le genre d'équipement que l'on peut acquérir. Il y a aussi une autre approche en France qui est supportée, c'est l'économie de la fonctionnalité, avec notamment la coopérative Common et la maison de l'informatique responsable, où là, vous n'achetez pas votre Fairphone, mais vous le louez. Pour une trentaine d'euros par mois, vous avez un Fairphone qui est toujours à jour, qui est réparé, qui est en place et qui à la fin sera recyclé ou réutilisé. Donc au lieu de l'acheter vous-même, vous pouvez aussi le louer.
On peut le louer, pourquoi pas. Raphaël Guastavi de l'ADEME, on a entendu ce chercheur Laurent Lefebvre, plutôt pessimiste hein, sur l'avenir de l'évolution de la pollution numérique. Vous êtes un petit peu plus optimiste, vous, à l'ADEME, pourquoi?
Alors, on est un peu plus optimiste parce que on voit qu'il est possible de faire des choses rapidement, comme se font rapidement aussi les évolutions des usages et du matériel. C'est clair qu'il faut être très vigilant. Il faut être très vigilant parce que ça a été rappelé, il y a une réelle augmentation, hein, c'est plus 10% par an, hein, de ces émissions de gaz à effet de serre liées aux services numériques. Donc,
il 4%, faut... ça représente 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le
niveau
monde,
mondial.
Vous l'avez dit
tout à l'heure. Et ça, c'est énorme. Il faut tout faire pour éviter ce doublement et dépasser d'autres grands postes comme le transport de façon générale. Donc, on est optimiste parce qu'on sait que le numérique, peut aussi être un levier pour la transition énergétique et écologique.
C'est-à-dire ?
Alors, c'est-à-dire que voilà, il n'y a pas que des usages un petit peu bas du front, excusez-moi du terme. On a aussi des usages qui peuvent améliorer les choses, que ce soit dans la mise en œuvre des smart cities, donc des villes intelligentes, avec une ressource liée aux données pour pouvoir les exploiter et en faire des systèmes prédictifs, des aides à la décision pour mieux faire fonctionner les villes et ses services, que ce soit la gestion des déchets, que ce soit la gestion de l'eau, la gestion de l'énergie.
Ah mais que le numérique aide dans tous les domaines, et notamment celui de l'écologie, on ne découvre pas ça ce soir tout de même.
Alors, on ne découvre pas ça ce soir, mais il faut avoir en tête aussi que finalement, c'est aussi un fantastique outil pour la mise en relation des entreprises, des citoyens, dans différents domaines.
Et c'est pour ça que vous êtes un petit peu plus optimiste que le chercheur de l'INRIA, Laurent Lefebvre. Hein.
Allez, une petite note positive quand même, si je peux.
Oui, allez-y.
J'ai gardé ma casquette de chercheur, c'est que heureusement les chercheurs sont là. On est là aussi pour essayer d'améliorer les systèmes, les infrastructures, les logiciels. Donc notamment à l'INRIA, on travaille sur plein de leviers pour essayer de réduire l'impact environnemental et l'impact énergétique du numérique. Donc heureusement qu'il y a ça, mais il faut faire attention à un effet qui est très important, qui s'appelle l'effet rebond. C'est-à-dire que quand on va améliorer les infrastructures, quand on va améliorer les systèmes, on risque de provoquer un surusage du numérique avec de nouveaux utilisateurs qui vont arriver en se disant « Ah ben ça consomme pas trop, finalement je vais l'utiliser encore plus ». Donc en plus de cette amélioration technique et technologique, il faut bien avoir un œil sur les usages, essayer de bien encadrer les usages pour pas avoir cet effet rebond qui peut être très impactant.
Allez, dans 5 minutes, il sera 20h. Encore une question au standard, celle de Raphaël. Bonsoir Raphaël.
Oui, voilà, bonsoir. En fait, j'ai un petit peu des réponses à ma question là, qui viennent d'être données.
Oui.
Parce que je voulais connaître un petit peu quelles étaient les conditions de travail actuellement des gens qui travaillent à l'extraction des métaux. Parce qu'on lit dans certains articles, donc dans quel pays ils sont-ils extraits, quelles sont les conditions de travail et sociales de ces gens, et quelles sont les qualités de l'eau et de l'environnement de ces pays d'où nous arrivent ces métaux.
Merci Raphaël. C'est bien de poser cette question aussi sur la pollution informatique, parce que ce sont aussi les métaux rares dans nos smartphones que l'on extrait dans quelle région du monde et avec quelles conditions de travail, Raphaël Gostavi.
Alors, dans plusieurs régions du monde, hein, ça peut être l'Afrique, ça peut être l'Amérique du Sud, ça peut être l'Asie, la Chine par exemple, le néodyme ou encore le tantale. C'est souvent quand même des conditions qui restent très dures, si ce n'est inhumaines. Donc de vraies conditions difficiles, d'où cette idée aussi de savoir que ce que nous achetons a un impact à l'autre bout du monde, à la fois sur les humains et sur la biodiversité aussi. Chaque mine ouverte, c'est une perte de biodiversité.
Il nous reste quelques minutes, je voudrais poser des questions courtes et des réponses courtes si possible également. Laurent Lefebvre, bientôt l'arrivée de la 5G, est-ce que cette autoroute toujours plus rapide va générer encore plus de pollution numérique ?
Oui, comme j'évoquais tout à l'heure, l'arrivée de la 5G va imposer beaucoup de pression sur les infrastructures. Il va falloir avoir encore plus de data centers qui seront encore plus proches des utilisateurs. Ils seront donc déployés dans nos villes.
Vous avez le même point de vue à l'ADEME. La 5G, ça va générer encore plus de pollution ?
C'est effectivement un risque et d'avoir en plus de nouveaux usages pas toujours utiles.
En fait, c'est le volume qui va créer de la pollution parce que finalement, pour individuellement, ça va aller plus vite et ça va peut-être créer moins de pollution individuellement. C'est plutôt qu'on va les consulter plus longtemps et nous serons plus nombreux à y aller. C'est peut-être ça la pollution ?
C'est ça.
Question de volume.
Et c'est une question de volume de données. C'est aussi une question de se rééquiper de nouveaux équipements qui vont encore générer des déchets électriques et électroniques et des problématiques au niveau de la fabrication.
Et on continue avec les questions rapides, réponses rapides. Est-ce qu'un mail équivaut bien à une demi-heure d'utilisation d'une ampoule de 30 watts, Laurent Lefebvre ?
Impossible à répondre, ça dépend. La vraie réponse est ça dépend, puisqu'un mail peut parcourir différents chemins au sein d'Internet. Il y a le mail qui va rester en local, en régional, qui va passer à l'international. Donc c'est très difficile de répondre là-dessus.
Et on ne parle pas des mails où il y a un « oups, j'ai oublié la pièce jointe » et on renvoie le mail. Et ça, effectivement, ça consomme encore plus d'énergie. Est-il vrai qu'une box consomme autant qu'un frigidaire, Raphaël Gostavi ?
Oui, c'est tout à fait ça. On est dans le même ordre de grandeur de consommation d'énergie. Donc une box, oui, ça consomme.
Une box consomme, ça veut dire que donc ce sont bien les YouTube, les sites de VOD et les Netflix qui sont gros consommateurs d'énergie. Donc.
Alors une box consomme, même si on n'utilise pas Netflix, ouais. Et encore plus quand on utilise un Netflix ou autre.
Quand on dit que Google possède 900 000 serveurs, est-ce que ça équivaudrait, comme on l'entend, à la consommation électrique du Sénégal? Alors, pardon, je vous pose la question, on n'a pas les chiffres ce soir, mais c'était parmi les questions. Vous avez peut-être un point de vue là-dessus, Laurent Lefebvre? 900 000 serveurs, ça équivaudrait à la consommation électrique d'un pays comme le Sénégal?
Alors, c'est crédible. Je ne sais pas si ça ressemble au Sénégal. Oui, on considère que Google aurait peut-être 1 million de serveurs dans une quinzaine de data centers à l'échelle mondiale.
Voilà. Et que valent les options économie d'énergie sur les écrans, c'est fiable, c'est bien, Raphaël Gostavi?
C'est bien pour l'écran, c'est-à-dire que vous allez diminuer effectivement la consommation de votre terminal, donc ça a un impact sur la batterie de votre terminal.
Eh bien merci à vous deux, Raphaël Gostavi, je rappelle que vous représentiez ce soir l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, et en duplex de Lyon, merci beaucoup pour vos connaissances également, Laurent Lefebvre, chercheur à l'INRIA, l'Institut National de Recherche en informatique et en automatique. Vous étiez à Lyon et je précise que vous êtes aussi membre de ce groupement de services Eco-Info. Merci à l'équipe du Téléphone Sonne. À la réalisation, il y avait Anna Buy. À la technique ce soir, Fabrice Desmaz et Henri Bérec. Salut les amis. À la présentation, préparation de l'émission, Pierre de Certaines, Emma Ferré, Mathilde Sour. Lundi dans le Téléphone Sonne, on évoquera les relations entre Macron et Poutine. Les deux hommes vont se rencontrer lundi au fort de Brégançon. Vous avez entendu Les 4 tops sur France Inter, il est 20h.